Et je suis le pasteur donc de cette église protestante évangélique de Palaiseau, et c'est avec joie que je vous salue tous, particulièrement celles et ceux qui viennent pour la première fois. Encore une fois, bienvenue dans notre assemblée. Alors ce matin, je propose de diviser mon intervention en deux parties. D'abord, nous méditerons un passage biblique. Et ensuite, je prendrai quelques minutes pour expliquer la signification biblique du baptême, pour nous aider à comprendre la raison pour laquelle, les raisons pour lesquelles Anne-Lise, qui est là, et Delphine aussi, ouf, je suis rassuré, toutes les deux sont là, la raison pour laquelle elles vont être plongées dans l'eau, hein, baptisées dans cette eau qui est à ma gauche. Alors d'abord, donc, je vous propose de méditer un texte de la Bible, un texte tiré d'une lettre qui a été écrite par Pierre, l'apôtre Pierre. Pierre qui était un des disciples de Jésus-Christ. Il a écrit en fait deux lettres, hein, qui se trouvent dans le Nouveau Testament, à destination des chrétiens du 1er siècle. Et notamment, donc, c'était des chrétiens qui évoluaient dans un monde qui était, à l'époque, donc, assez hostile au christianisme. Il a donc écrit ces lettres afin d'encourager les croyants à persévérer dans leur foi, à avoir une conduite exemplaire dans cet environnement hostile qui était le leur. Et donc, je vous propose de lire un extrait de la première de ces lettres, donc dans la première lettre de Pierre, au chapitre 2, versets 11 à 12. J'ai préparé un petit PowerPoint pour vous aider à suivre ce passage. Voici ce que dit la parole. « Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient, en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. » Voilà, c'est un passage relativement court, mais assez riche, et dans lesquels nous allons avoir quelques enseignements, quelques encouragements pour chacun d'entre nous. Et dans ce texte, on peut percevoir trois idées générales, trois termes, on va dire, qui caractérisent le chrétien. D'abord, le chrétien est un résident temporaire. C'est ce que dit le passage, hein. « Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. » Alors Pierre, donc, l'apôtre Pierre, qui a écrit cette lettre, affirme que le chrétien est un étranger, un alien, et que cette vie sur la terre, en fait, n'est qu'un passage. Sa vraie patrie, elle est où ? Elle est au ciel. Un chrétien, donc, est un citoyen du ciel avant tout. Il y a un autre apôtre qui s'appelle Paul, qui a aussi écrit plusieurs lettres. Il comparait sa demeure présente comme une tente, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la deuxième lettre, au chapitre 5. Il comparait sa demeure comme une habitation provisoire, en attendant le domicile céleste que Dieu a préparé pour lui. Et dans une revue, j'avais trouvé une phrase qui était écrite par un théologien qui s'appelle Alain Isus. Une phrase que j'ai trouvée bien, qui résume bien cette idée, et qui dit « Les croyants sont comme des étrangers en diaspora dans le monde et en attente d'un héritage qui leur est réservé dans les cieux. Leur situation concrète est donc celle d'un peuple de pèlerins. » Le chrétien est un pèlerin. C'est-à-dire un voyageur dont la destination finale est le paradis. Mais sur son chemin, il va être confronté à une réalité, la réalité du monde qui l'entoure. Et ce monde, chers amis, est un monde globalement réticent à tout ce qui touche de près ou de loin à la spiritualité, à la religion. C'est une constatation qu'on fait au quotidien. C'est un monde qui ne connaît pas Dieu, un monde qui est livré à lui-même. Un monde qui rejette Dieu. Et en tant que voyageur, le chrétien pourrait être tenté de fuir ce monde. Mais ce n'est pas sa vocation. Au contraire, Dieu lui demande d'y rester dans ce monde. Il faut savoir aussi que ce monde est un monde plein de tentations pour le chrétien. En quelque sorte, le chrétien est appelé à vivre à contre-courant, à lutter contre toutes les tentations qui vont se dresser devant lui pendant sa vie terrestre. Nous avons vu donc que le chrétien est un résident temporaire, mais le chrétien est aussi quelqu'un qui combat contre les tentations. Ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même, dit la suite de ce passage. Ils font la guerre à l'âme. C'est un terme un peu bizarre de parler de guerre. Mais on peut voir aussi que la vie chrétienne est peut-être comparée à celui d'un soldat. Quelque part, le chrétien est un soldat. Un soldat, qu'est-ce qu'il a pour vocation ? Il a pour vocation de se préparer à combattre l'ennemi. Alors, il y a des moments aussi où, de répit, hein, des moments de repos, de loisirs, mais avant tout, un soldat est préparé à combattre. Et tout comme un soldat, le chrétien est aussi engagé dans un combat, une lutte. Et le principal ennemi s'appelle le diable. Le diable est aussi désigné par la Bible comme le tentateur. Et il faut savoir que le diable n'est pas un mythe. C'est un être qui existe bel et bien et dont la Bible fait allusion plusieurs fois. Il y a des gens qui disent « je crois en Dieu, mais je ne crois pas au diable ». Non, le diable existe. Et son but, c'est de faire tomber l'enfant de Dieu, faire tomber le chrétien. Et derrière chaque tentation, il y a un plan diabolique du diable pour que le chrétien désobéisse à Dieu, pour que le chrétien tombe, pour qu'il culpabilise, pour qu'il doute même parfois de son salut. Alors même s'il est bien viré, il est vrai que le chrétien a été libéré de l'esclavage du péché, de l'esclavage du diable, cela ne le rend pas du jour au lendemain un homme ou une femme parfaite sur tous les plans, notamment sur le plan moral. Mais le chrétien a un objectif, et son objectif, avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, c'est d'être débarrassé progressivement de ses mauvais penchants et de se rapprocher de ce qu'on appelle la stature parfaite de Christ. Alors, j'aimerais me tourner vers Delphine et Anne-Lise en particulier pour leur dire que la tentation, c'est une réalité. Et ça sera une réalité pour vous. Ça l'a été certainement jusqu'ici. Mais vous y serez encore confrontés à un moment ou à un autre de votre vie chrétienne. Alors que faire face à la tentation ? Comment mener ce combat dans lequel le chrétien est engagé ? Alors, je suggère un certain nombre de pistes pour résister, pour combattre la tentation. La première piste, c'est de savoir que la tentation en elle-même n'est pas un péché. C'est pas parce qu'on est tenté qu'on est tout de suite pécheur. Pour preuve, le Seigneur Jésus lui-même a été tenté, mais il n'a jamais cédé. Le péché, donc, c'est le fait de succomber à la tentation. Ça, c'est important de le savoir. La tentation n'est pas un péché, mais il est aussi important de connaître son ennemi. Avant de combattre l'ennemi, il faut avoir un certain nombre d'éléments sur cet ennemi-là. Il faut savoir que le diable est très intelligent. Le diable s'est adapté ses attaques par rapport au point faible du chrétien. Et tout chrétien a son point faible. Des points faibles qui sont héritiers de son ancienne vie. et qui sont peut-être en rapport avec beaucoup de choses. Avec, ça peut être l'alcool, ça peut être l'argent, ça peut être les commérages, ça peut être l'orgueil, le mensonge, le sexe, etc., etc. On a tous eu une vie dans ce monde avant de connaître le Seigneur Jésus, en tout cas pour celles et ceux qui sont chrétiens. Il faut donc que le chrétien se connaisse bien lui-même et identifie les domaines dans lesquels le diable pourrait l'attaquer. Connaître son ennemi et se connaître soi-même. Ensuite, éviter les situations propices aux tentations. Il y a des situations qui prédisposent l'enfant de Dieu à chuter. Alors, il y a certainement plusieurs éléments. Ça, la solitude aussi en fait partie, le désœuvrement, les moments de faiblesse physique, entre autres. Et dans la Bible, nous avons l'exemple d'un certain David, qui était roi d'Israël. Un roi d'Israël qui est tombé dans la convoitise et l'adultère quand il était seul et désœuvré sur sa terrasse royale. Vous connaissez peut-être l'histoire de David et Bathsheba. Il a, par la suite, c'est vrai, David a reconnu ses fautes, il a demandé pardon à Dieu, mais son péché a quand même eu des conséquences sur la suite de son règne. Il y a donc des scénarios, des scénarios, je me tourne vers Clément parce que c'est un peu l'intellectuel de l'Église. Il y a des scénarios que le chrétien doit éviter à tout prix. Par exemple, un chrétien qui était victime d'une addiction quelconque avant, dans son ancienne vie, et il y a plusieurs addictions qui sont possibles dans cette vie, eh bien, ce chrétien-là prendra toutes les précautions nécessaires afin de ne pas être seul en présence des domaines dans lesquels il était asservi avant. Je pense que vous me comprenez. Il y a d'autres exemples aussi, un jeune homme et une jeune fille non mariés se garderont de se retrouver seuls ou de cohabiter seuls sous un même toit, dans un même endroit, même pour des raisons apparemment pures, afin de ne pas céder à des désirs charnels. Donc éviter des situations qui prédisposent à la tentation. Et parfois, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est là qu'il faut être extrêmement vigilant. Autre chose aussi, c'est ne pas vivre sa foi tout seul. La vocation du chrétien, c'est de vivre sa foi en communauté. Aujourd'hui, c'est un exemple pour les chrétiens qui sont là. Parce qu'un chrétien qui est tout seul est un chrétien qui est en danger. Et le fait d'être ensemble avec les autres chrétiens, avec les autres frères et sœurs en Christ, permet de s'encourager mutuellement, permet de se soutenir pendant les moments difficiles, permet de surmonter ensemble les tentations. Il y a une image qui est donnée du chrétien, l'image du charbon ardent. Peut-être que vous avez entendu parler de ça. Vous savez, un charbon, quand il est ardent, mais qu'on le met de côté, qu'on l'isole des autres charbons, il s'éteint tout seul. Tandis que quand on les met ensemble, eh bien, ils brûlent beaucoup plus, ils sont incandescents beaucoup plus longtemps. Un chrétien qui vit sa foi tout seul est un chrétien qui est en danger, parce que la solitude peut engendrer des moments de tentation, et là, le chrétien sera désarmé. Il y a aussi une solution extrême, c'est fuir. Quand le chrétien se retrouve malgré tout en face d'une situation difficile, compromettante, ne pas hésiter à fuir. Ce n'est pas de la lâcheté que de fuir certaines situations qui peuvent avoir des conséquences spirituel grave. Il y a un personnage biblique qui s'appelait Joseph dans l'Ancien Testament, qui était dans une situation délicate parce que la femme de son maître, il était esclave, la femme de son maître le convoitait sur le plan sexuel. Il était beau, il était attirant, et la femme de Potiphar c'était son maître, le convoitait. Et pour préserver sa pureté, pour obéir à Dieu, pour ne pas offenser Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas évangélisé la femme de Potiphar, il a fui, il a pris les jambes à son cou, il a fui, parce qu'il savait qu'il était en danger. Fuir, quand il le faut, quand il y a des situations difficiles, il ne faut pas hésiter à fuir. Considérez aussi... Oh, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Bon, ne faites pas attention à ça. Voilà. Encore un point, c'est considérer l'exemple de Jésus-Christ. Excusez-moi pour cette petite problème technique. Jésus-Christ a aussi été tenté par le diable, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4 ou l'évangile de Luc au chapitre 4, on peut voir ça. Mais quelle a été la réaction de Jésus? Est-ce que vous connaissez, vous vous souvenez de la réaction de Jésus quand il a été tenté dans le désert? Il a réagi, il a répondu par quoi? Par des versets de la Bible. Avec autorité, il a cité des versets de l'Écriture pour résister et pour vaincre le diable qui était là. À chaque fois que le diable tentait, il répondait par des versets. D'où l'importance de la connaissance de la parole de Dieu dans la lutte contre la tentation. Pas simplement une connaissance intellectuelle, il y a des gens qui lisent la Bible pour leur culture, ce qui est bien, mais une connaissance dans le but de se nourrir, de se méditer, de méditer la parole de Dieu et d'y trouver la volonté divine et le discernement nécessaire. Le même David que j'avais évoqué tout à l'heure, il avait écrit un passage, un psaume, et il avait dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Je trouve que c'est un passage très intéressant pour le chrétien. Alors, serrer sa parole dans son cœur, il ne faut pas forcément le prendre sur le plan littéral. Quoique prendre la Bible et faire ça, bon, ça peut être beau à voir, hein. Ça peut exprimer quelque chose, mais c'est une image pour dire de garder la parole au fond du cœur, de la lire, mais aussi de la garder, pas simplement de l'écouter, mais de la méditer. Et il y a un verset qui résume en fait l'attitude à avoir pour le chrétien face à la tentation. C'est de laisser le Saint-Esprit agir. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. C'est un verset pour les chrétiens, c'est un verset particulièrement aussi pour Delphine et pour Anne-Lise. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Et vous ne céderez pas aux tentations de ce monde. Le troisième terme, c'est d'avoir une bonne conduite. Ayez une bonne conduite au milieu des païens, dit la parole qu'on vient de lire tout à l'heure. Les païens dont il est question là, c'était une manière d'appeler, de désigner les personnes qui n'étaient pas croyantes. Donc aujourd'hui, ça, c'est un mot qui est assez dépassé. On ne parle plus de païens, mais quand vous en verrez le terme païen dans la Bible, ce sont ceux qui ne croient pas en Dieu. Et dans notre texte de ce matin, le chrétien se doit donc de s'abstenir des convoitises charnelles, non seulement pour sa propre santé spirituelle, mais aussi pour glorifier Dieu par une bonne conduite, par un bon témoignage vis-à-vis des non-croyants. Le témoignage est important. Vous savez, quand quelqu'un s'installe dans un pays étranger, il est souvent observé, il est souvent critiqué par la population locale, dans sa manière de vivre. Est-ce que c'est quelqu'un qui est un peu comme nous, qui observe nos coutumes, qui à partir de 9h du soir éteignent leur lumière et dorment? Il y a des gens qui considèrent tout de suite l'étranger avec un a priori négatif. Et d'ailleurs, jusqu'à un passé récent, hein, certains Français d'une certaine génération regardaient d'un mauvais œil les Allemands. Pour des raisons historiques évidentes. L'Allemand était ancien, l'envahisseur, et était mal vu. Et jusqu'à, il n'y a pas très longtemps, hein, il y avait encore des gens qui étaient... Et encore aujourd'hui aussi dans le continent africain, qui était autrefois sous la domination des empires coloniaux, ben, les Européens sont scrutés dans leur comportement. Et dès qu'il y a un écart de conduite, ils sont facilement stigmatisés comme des colons. Tellement la population a été marquée par ce passé colonial. Alors, tel un étranger, le chrétien est également observé par le monde qui l'entoure. Hein, Delphine et Alindise, vous êtes observés par le monde qui vous entoure. Que ce soit à votre lieu de travail, que ce soit à la fac, au niveau de votre famille et parfois même dans le monde chrétien. Vous êtes observé dans votre comportement de tous les jours, dans votre manière de vivre, dans vos prises de position, dans votre manière de vous habiller, parfois aussi, votre manière de parler. Voilà, le chrétien est un peu cette bête curieuse là. Il est chrétien, oh, voyons voir comment il se comporte. Et dans notre texte, l'apôtre Pierre en est conscient et il demande aux chrétiens d'avoir une bonne conduite au milieu des non-chrétiens. Ainsi, dans les domaines, même où ils vous calomnient, ils vous accusent de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Ah, ça c'est intéressant. La part du chrétien, la part d'Anne-Lise et de Delphine, c'est de montrer Christ dans sa vie. Montrer Christ dans vos vies. Et comment montrer Christ dans votre vie? Tout simplement en entretenant une bonne communion avec lui. En priant régulièrement, en gardant sa parole dans votre cœur. Ce sont des activités qui sont primordiales et qui vous permettront d'être attentive à la volonté de Dieu, attentive aux directives de l'Esprit-Saint. Ainsi, votre témoignage au quotidien pourra peut-être un jour toucher celles et ceux qui ne partagent pas forcément votre foi aujourd'hui. Et qui sait, peut-être qu'un jour aussi, ils loueront Dieu avec vous. Conséquence lointaine de votre bonne conduite, de votre bon témoignage. Moi, j'ai un frère à Madagascar qui était assez moqueur par rapport à l'Évangile. Bon, j'ai prié pour lui pendant longtemps. Et je m'efforçais d'avoir un bon témoignage. Et finalement, de me retrouver avec lui pour louer le Seigneur ensemble quand on est à Madagascar, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que je ne pensais pas et que Dieu a fait. Et c'est pareil pour ma belle-sœur, la sœur de Nyarinsu. Elle était aussi quelqu'un qui était loin, loin du Seigneur. Un jour, elle a reconnu qu'elle n'était rien sans Dieu. Elle a accepté Christ comme son Seigneur, comme son Sauveur. Et de louer le Seigneur ensemble, ah, c'est extraordinaire. Alors j'arrive déjà à la conclusion de cette première partie. Il y a ce passage qu'on va lire tout à l'heure, mais il faut dire avant que Delphine et Anne-Lise, vous êtes une lumière. Une lumière dont la vocation, c'est de briller. La vocation de la lumière, c'est pas d'être mis sous la table, c'est de briller dans ce monde. Vous êtes une lumière dont la flamme, toutefois, pourra vaciller à cause des tentations, mais le Seigneur vous demande de tenir bon avec l'aide de son esprit. Certes, il vous arrivera encore de tomber. Et nous arriverons tous, qui sommes chrétiens, de tomber face à la tentation. Mais dans ce cas, demandez pardon à Dieu, sincèrement, et tirez des leçons de ces chutes, sachant que ces chutes nous serviront à être plus forts, plus vigilant par rapport aux ruses du diable à l'avenir. Et surtout, gardons cet objectif principal qui est de ressembler à Christ, d'être débarrassé progressivement de toutes les mauvaises habitudes, des mauvais penchants qui ont été hérités de notre ancienne vie. Et il y a une chose très importante aussi à savoir, le diable dont on parlait tout à l'heure, il a déjà été vaincu par Jésus-Christ sur la croix. Vous savez, la résurrection de Christ, c'est la preuve que la mort a été vaincue. Et la Bible dit que le diable est celui qui détenait le pouvoir de la mort. Et donc, par conséquent, le diable est aussi vaincu. Dieu lui permet encore d'avoir de l'influence sur les chrétiens aujourd'hui. Mais son sort est déjà scellé. Et son sort, c'est le feu éternel, la perdition éternelle. Il peut encore aujourd'hui, certes, attaquer encore l'enfant de Dieu. Mais le chrétien peut lui résister, le faire fuir loin de lui avec les armes spirituelles que Dieu met à sa disposition. Et j'en viens à ce verset qui est affiché, un verset qui est très encourageant pour les chrétiens, qui dit, c'est un passage dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, donc écrit par l'apôtre Paul. Ce passage dit donc que les tentations que vous avez connues, ou que vous connaîtrez encore, ont toutes été celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera aussi la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Voilà, maintenant, comme je l'avais dit au début, permettez-moi de terminer ce message avec quelques mots d'explication sur le baptême. Au début du christianisme, donc au 1er siècle, tous ceux qui acceptaient le message de l'évangile, c'est-à-dire ceux qui décidaient de se détourner de leur mauvaise voie et qui mettaient leur confiance en Jésus-Christ, eh bien, ils confessaient de leur bouche cette décision-là. Et ensuite, ils confirmaient en se faisant baptiser dans de l'eau. Et le faisaient avant tout par obéissance à la parole de Christ. On a lu tout à l'heure, dans ce passage qu'a lu Jérémie, que les non-juifs qui avaient cru en Jésus-Christ se faisaient tout de suite baptiser. Donc c'est par obéissance à la parole de Christ. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a dit ? Faites des disciples parmi tous les peuples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est par obéissance à Christ qu'Annelise et Delphine vont passer par les eaux du baptême. Elles seront baptisées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et par le baptême, elles vont exprimer publiquement, par des témoignages déjà qu'elles vont apporter tout à l'heure, mais par le baptême, c'est aussi une expression publique de ce qui s'est passé intérieurement entre Dieu et elle-même. Qu'est-ce qui s'est passé entre Dieu et elle-même ? Elles vous le raconteront tout à l'heure. Mais, en résumé, elles ont, à un moment donné de leur vie, accepté le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile. Qu'est-ce que c'est que ce message de l'Évangile ? J'aimerais vous le résumer en un paragraphe. Nous sommes tous des pécheurs, révoltés, rebelles à Dieu, et nous méritons la mort éternelle. Mais Dieu, qui est un Dieu de grâce et d'amour, nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour payer le prix de nos péchés sur une croix à notre place. Et tous ceux, toutes celles et ceux qui mettent leur confiance en lui, qui reçoivent son pardon, ont la vie éternelle. Voilà le message de l'Évangile. Ce n'est pas un message compliqué. Le mot Évangile vient du grec Evangelion, et qui a été repris ensuite par le latin pour nous donner Evangelium, d'où le mot Évangile. Et ça veut dire bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, chers amis, c'est que Jésus est mort sur une croix pour payer nos fautes, pour nous libérer de l'esclavage du diable, l'esclavage du péché, mais qu'il est aussi sorti vivant de son tombeau et il est monté dans les cieux auprès de Dieu. Il est vivant aujourd'hui. Et cette certitude que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant, eh bien c'est une certitude qui nourrit l'espérance des chrétiens et qui nourrit aussi l'espérance d'Annelise et de Delphine et de moi-même, puisque je suis chrétien, de savoir que Jésus est vivant. Et donc maintenant, j'aimerais me tourner vers celles et ceux présents dans cette assemblée ce matin, qui peut-être entendent pour la première fois ce message de l'Évangile, ou qui peut-être l'ont déjà entendu, mais ils sont restés indifférents jusqu'à aujourd'hui. Juste pour dire que c'est un message qui est toujours d'actualité. Un message qui est sous forme d'appel, et un appel qui attend une réponse. Pendant qu'il est encore temps. Parce qu'on ne sait pas ce que demain sera fait. Il y a un passage qui dit dans la Bible, celui qui place sa confiance en Jésus-Christ possède la vie éternelle. Mais celui qui ne met pas sa confiance en Jésus-Christ ne connaît pas la vie. Il reste sous le coup de la colère de Dieu. La question c'est, dans quel camp est-ce que voulons-nous être aujourd'hui ? Dans quel camp êtes-vous aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes dans celui qui rejette l'appel de Dieu et par conséquent qui est destiné à la mort éternelle, à l'enfer ? Ou est-ce que vous êtes dans celui qui accepte le message de l'Évangile et qui est destiné à la vie éternelle ? il y a un choix clairement à faire, que le Seigneur nous met devant, en ce choix, c'est la vie ou la mort. Parce que rejeter Christ, rejeter Dieu, c'est courir à sa perte. Mais accepter le message de l'Évangile, comme l'ont fait Anne-Lise et Delphine, c'est avoir l'assurance du pardon des péchés et l'assurance de la vie éternelle. Alors si quelqu'un ce matin souhaite accepter ce message, c'est pas compliqué. Il suffit de dire au Seigneur, oui Seigneur, oui, je reconnais que j'ai vécu jusqu'ici loin de toi. Je reconnais que je voulais suivre ma propre voie et je te demande pardon. Pardon pour tous mes péchés. Et je veux prendre maintenant un nouveau départ avec toi. Viens prendre la direction de ma vie. Si véritablement vous souhaitez changer de vie, naître de nouveau, avoir un nouveau départ, une nouvelle chance, eh bien c'est simple, venez à Jésus. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce message, Seigneur, de l'Évangile, qui nous appelle à venir à toi, à te déposer tous nos péchés, tous nos fardeaux, tous nos soucis, à te laisser pardonner, nous purifier complètement, et à te laisser diriger aussi notre vie. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici, aujourd'hui, qui n'a pas encore reçu ce pardon, qui n'a pas encore l'assurance de la vie éternelle, que tu puisses toucher son cœur, que tu puisses, Seigneur, parler dans son cœur, afin qu'il puisse se poser aussi les bonnes questions sur son avenir éternel. Merci, Seigneur, de parler, merci de toucher, merci d'attirer à toi. Et je te prie pour Anne-Lise et pour Delphine également, Seigneur, que tu les bénisses, que tu les fortifies sur ce cheminement avec toi, notamment face aux tentations qui pourront se dresser devant elles. Seigneur, garde-les, fortifie-les. Fais en sorte, Seigneur, qu'elles puissent avoir le discernement qui vient de ton esprit, afin de combattre efficacement contre les ruses du diable. En ton nom, Jésus.